Winter Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour tout le monde, vous écoutez Attitude. Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com pour pouvoir nous suivre partout en France. Et cette émission, c'est Culture Sport, c'est votre émission, chaque lundi à partir de 19h10. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur avec nos émissions, puisqu'on va parler aviation. Donc nous accueillons Joël Canor. Joël, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation.
Parfait, Dédé, donc tu es présent, donc merci de participer à l'émission. Et nul doute que, comme tu as un regard béotien sur l'aviation, tu pourras poser des questions qui sont intéressantes.
Bonsoir Didier, bonsoir Joël. Aux auditeurs et Joël. Bonsoir Dédé, bonsoir à vous.
Joël, de manière, nous on se connaît bien puisqu'on a le plaisir de se voir tous les ans régulièrement au Forum Sport Santé Environnement. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissaient pas, eh bien écoutez, je vous propose de nous faire un petit peu votre curriculum vitae.
Oh ben j'étais dans un autre sport avant puisque j'ai travaillé toujours dans le sport. J'étais entraîneur national d'une discipline sportive, le tennis de table pour le nommer. Et puis, quand j'étais fatigué des voyages, je suis venu me poser à Angoulême et j'ai trouvé une Charentaise, figurez-vous.
Oui, parce que là, votre accent n'est pas celui de la Charente.
Alors non, j'étais bordelais, en fait, de Saint-Christophe-des-Bards, de Saint-Émilion, si vous voulez, bien connu pour son église monolithe.
Entre autres. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer
le... ça me titillait depuis pas mal de temps, et puis quand j'ai fini un petit peu cette carrière un peu de saltimbanque et de vadrouilleur avec les équipes de France, je me suis approché de l'aéroclub, et bon voilà, c'était un vieux rêve que de voler. J'ai été parfaitement accueilli, et puis j'ai passé mon brevet de pilotage. Et alors, comme j'ai travaillé à Jeunesse et Sport et que les gens ont dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui connaît des tuyaux pour les subventions et tout ça, je me suis fait récupérer également au bureau du club. Et puis, bon, j'ai mis la main, le doigt, la main, le bras et tout le corps dans quelque chose qui m'a passionné. Voilà, puis je m'y donne depuis longtemps et c'est extrêmement... valorisant que de donner aux jeunes. Moi, j'ai beaucoup reçu, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait beaucoup de belles rencontres, et puis j'essaie aujourd'hui de rendre un petit peu ce qui m'a été donné par d'autres dans d'autres sports. Voilà.
Outre le fait que c'était le fait d'assouvir une passion, parlez-nous un petit peu de votre club, donc de l'aéroclub d'Angoulême.
Alors le club, c'est un club qui est assez ancien, hein, donc qui a 80 ans à peu près, qui est installé à Chamonix depuis 35 ou 40 ans, 80, oui, qui est là, bon, qui était avant à Bélair, enfin, qui a eu plusieurs appellations, et il a l'appellation Aéroclub d'Angoulême depuis 1951, agrément en préfecture, avec une activité de éducative et de lien social qui fait qu'on a un agrément, on est reconnu d'utilité sociale, et on fait un certain nombre d'activités qui passionnent les jeunes. Tout simplement parce qu'on leur fait découvrir le pilotage, et ça c'est quelque chose effectivement qui les accroche, mais également une filière la filière aéronautique, qui est très porteuse en termes de professionnalisation, très très porteuse. Et nous, c'est un plaisir et un pied extraordinaire de voir tous ces jeunes qui terminent pilotes chez Air France, pilotes dans des compagnies nationales étrangères, ingénieurs aéronautiques, mécaniciens aéronautiques, météorologues, parce que il n'y a pas que les pilotes, hein, pour...
Il y a aussi la météo, qui est importante.
La météo, et il y a des jeunes qui se passionnent, hein, qui ont, durant le BIA, on en parlera sûrement pendant l'émission, durant le BIA, brevet d'initiation aéronautique, on a des jeunes qui se passionnent pour la météo et qui ont installé leur propre station météo, qui la font fonctionner. On est dans la passion, et cette passion, elle est multiforme.
Avant d'aller beaucoup plus loin, c'est une association, et combien vous avez de... Ça s'appelle des licenciés ou comment
oui, c'est une association. Alors on a deux tutelles, la DGAC, l'aviation civile, mais également sport. Il y a des compétitions sportives de voltige et autres. Donc nous on a 240 adhérents, dont 180 pilotes à peu près. Les autres adhérents, ce sont les jeunes qui font leur formation BIA et des personnes qui viennent au club Parce que soit ils ont été pilotes, et ils viennent respirer un petit peu de temps en temps, ils viennent respirer les avions et l'ambiance du club. Donc on est 235 adhérents et 180 pilotes.
Je vous suggère, je vais vous laisser la parole sur la question celui des nuisances, donc des appareils, donc et des problèmes que ça pose avec les riverains.
Alors les nuisances, on comprend un petit peu les riverains qui voient arriver sur l'aéroclub des professionnels. Alors nous sur le terrain, on y est depuis 40 ans et on n'avait pas de plaintes, pas de contestations. On était quasiment les seuls, et de temps en temps des avions de Cognac qui venaient se poser, mais qui n'avaient pas la même activité qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une confusion dans dès qu'il y a un avion en l'air, c'est forcément l'aéroclub, parce qu'on ne connaît que lui. Et on essaie d'être très pédagogique avec les riverains. On les rencontre, on va chez eux, on leur explique, et voilà. Mais il n'empêche que moi, toutes les semaines, il ne se passe pas une semaine sans que je prenne un coup de fil. On a un avion qui a fait de la voltige au-dessus de ma maison. Donc je vous dis tout de suite, si on fait un looping avec un avion de l'aéroclub, on explose en vol, donc c'est strictement interdit. On a des moteurs qui sont, alors par rapport aux avions militaires de Cognac, qui sont 3-4 fois moins puissants, donc les nuisances sont très réduites. Et puis on a des exigences dans les vols. On peut pas faire n'importe quoi. On a des circuits d'entrée, on a des points d'entrée vers le terrain. On peut pas faire n'importe quoi, et on essaie de faire respecter ces règles. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'aujourd'hui les gens ne savent pas qui fait quoi sur le terrain. Alors on essaie de l'expliquer. Nous, on veut pas montrer aussi du doigt des gens qui sont des partenaires chez nous, puisqu'après on a quelques élèves qui vont chez eux, hein, qui sont passés par chez eux, dont un qui est devenu maintenant pilote à la LAT, qui est en cours de formation, un autre qui est pilote de chasse professionnel, d'autres qui sont en compagnie. Donc nous, on ne veut pas stigmatiser les gens qui sont là, et il y a des raisons, mais on voudrait arrêter d'être monté du doigt, parce que nous, on fait pas plus de bruit, on en fait même moins, puisque on a moins d'activité qu'on avait il y a quelque temps. Voilà. Et puis que
vous avez des horaires à respecter peut-être aussi, non?
On a des horaires. Bah nous, par exemple, le vol de nuit, on pourrait voler de nuit, mais on essaie de centrer le vol de nuit sur des plages très restreintes, et juste avant le repas, on ne va pas voler. On essaie de faire en sorte que toute notre activité gêne le moins possible. Mais comme on faisait avant, on a gardé nos bonnes habitudes. Voilà. Maintenant, moi, je comprends aussi une compagnie comme Airbus. Ils ont des pilotes professionnels à former. Le vol de nuit, il y a un vol d'heure à faire. Il faut le faire de nuit. Et puis voilà. Des gens sont venus habiter autour du terrain, il y en a qui construisent autour du terrain, et puis qui seront demain peut-être les plaignants. Ça mérite d'être expliqué. Nous on essaie de se conduire convenablement avec les riverains, et on est un peu lassé d'être montré du doigt, parce que je crois qu'on ne le mérite pas, d'autant que si les gens venaient nous voir au sein de l'aéroclub, ils verraient que ce que nous faisons en compensation peut-être de quelques nuisances, mais qui sont minimes, ils verraient un petit peu le lien social qu'on tisse et l'éducatif que nous faisons pour ouvrir des perspectives de carrière professionnelle que les jeunes qui rentrent chez nous sur le BIA par exemple n'imaginent même pas, quoi.
D'accord, deux questions, Joël. Est-ce qu'il y a des couloirs qui sont définis, et est-ce que tous les avions, je pense notamment aux avions de la base de Cognac, ils ont des plans de vol pour venir survoler le territoire?
Alors évidemment, ils respectent les consignes qui sont données. On contacte la tour de contrôle la tour qui est un AFIS qui donne ce qui se passe sur le terrain, là, qui donne les espacements, qui donne un certain nombre d'informations aux pilotes pour venir se poser. Maintenant, des avions de Cognac qui viennent se poser. C'est un terrain d'entraînement pour eux, où ils viennent se poser, faire des tours de piste. Il n'y a pas que l'aéroclub d'Angoulême qui fait des tours de piste. Et nous, notre activité par rapport à Airbus, je ne dis pas qu'elle est marginale, hein, parce qu'on a quand même une soixantaine d'élèves pilotes, c'est beaucoup. Des pilotes qui s'entraînent également pour garder la main. Puis il y a des obligations, hein, pour conserver son brevet. Mais ça n'est sans commune mesure. Et très franchement, un avion de chasse qui passe au-dessus de chez nous, d'une maison, d'abord...
ça dure pas longtemps.
Ça dure pas longtemps. Et puis, il y a des points d'entrée sur le terrain. On fait pas comme on veut, quoi. Hein, donc, et puis, les loopings et tout ce qui est une grosse nuisance, ils ont des espaces qui sont réservés pour ça. Donc, moi, je sais pas si... Je suis aussi riverain en même temps, si vous voulez. J'habite à 8 km du terrain. Je suis sur la route Angoulême-Cognac. Donc les avions de l'école de pilotage de Cognac qui passent chez moi. Alors, je suis sensibilisé à ça. J'ai un double vitrage aussi, donc un peu moins peut-être. Mais bon, c'est pas non plus des trucs qui me font grimper dans des colères noires. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même un certain nombre de nuisances, où chacun, hein, je pense que ce soit d'autres usagers sur le terrain, essaient de faire en sorte de gêner le moins possible. Maintenant, il y a une activité aéronautique, elle se fait sur un terrain. Voilà, on peut difficilement la
faire. Il y a combien de vols par jour?
Alors nous, on a 2500 heures de vol par an. Mais ces vols, ces vols 2500 heures, c'est des vols où on va en Allemagne ou pour le jumelage, on va aux quatre coins de la France. Nous, on prépare des brevets qui ne sont pas des brevets professionnels, qui sont des brevets loisirs et qui permettent d'aller de voler dans le monde entier. Alors avec nos 7 Cessna qui avancent à 200 km/h, aller aux États-Unis, on loue plutôt là-bas un avion. Si on veut voir le Grand Canyon, on loue un avion là-bas, c'est moins cher. On va aux quatre coins de la France, si vous voulez, assez facilement. Le jumelage est une grosse destination aussi pour nous. Maroc, il y a de très beaux pays autour à visiter. Puis la France est magnifique.
C'est tous les jours qu'il y a des vols, tous les jours, c'est souvent le week-end, je suppose.
Alors nous, c'est le mercredi après-midi, parce que les gamins sont libres à ce moment-là. Et c'est le samedi et le dimanche où on essaie. Le dimanche, peu. On n'a pas d'habitude trop de vols le dimanche. Et le samedi, c'est un gros jour. Parce qu'Airbus n'est pas là. Et Airbus, on a des problèmes de cohabitation avec Airbus, mais amical. C'est-à-dire qu'ils ont des avions qui vont plus vite que les nôtres. Alors nous, nos avions, quand ils avancent à la même vitesse, on peut en mettre 4 dans le tour de piste. Quand vous avez des avions d'Airbus qui vont, alors pas deux fois plus vite que nous, mais bien plus vite que nous, très vite on se rencontrerait et on ne peut pas cohabiter dans le tour de piste.
Oui, puis ils emmènent des passagers.
C'est des vols à vide.
Ce sont des vols Airbus à côté, mais enfin, ils seraient mieux placés que moi pour en parler.
Oui, bien sûr,
ce sont des vols d'instruction avec instructeur. C'est une école de pilotage professionnelle.
Bien sûr. Et vous avez combien d'avions comme ça?
Alors, nous, on a 4 avions école de place. Et on a 4 places de voyage, mais qui servent à faire de l'instruction parce que. Des deux places, souvent, on a des gros bébés qui viennent faire de l'avion. Quand quelqu'un pèse 130 kilos et puis qu'on a un instructeur qui fait son poids, quand on entame des navigations où il faut aussi amener du carburant, on atteint vite des maximums. Donc, nous, on a 7-8 élèves là, qui, actuellement, sont obligés de prendre un 4 places pour pouvoir amener la charge qu'ils ont à trimballer avec l'essence et puis le poids du pilote et du passager.
Pour conclure sur ce chapitre, Joël, quel message souhaitez-vous passer?
Ce que je souhaite passer comme message, il est simple, c'est éveiller les jeunes à ce secteur de professionnalisation possible pour eux. Et il y a une formation qui est excellentissime, je dirais, puis je manque peut-être un peu de modestie, mais on est vraiment très très fiers de ce que nous faisons. C'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est un diplôme de l'éducation nationale qui est préparé à 90% dans les aéroclubs. Nous, on fait une formation intégrée complète du BIA qui nous permet en 40 heures de cours étalées sur toute l'année scolaire et 3 vols pédagogiques qui nous permet de préparer et donc passer ce BIA. Et ce BIA qui est une... Alors c'est un petit diplôme qui est de plus en plus difficile quand même, mais c'est un petit diplôme qui est très marqueur pour les entreprises et les établissements scolaires, non pas par le niveau qu'il donne, on peut pas piloter avec un brevet un BIA, brevet d'initiation aéronautique, mais il témoigne d'une motivation précoce des jeunes pour l'aéronautique, et ça moi je suis avec les recommandations que nous faisons pour certains jeunes qui veulent rentrer dans certaines écoles, ou dans des écoles professionnelles, ou des établissements, je suis très très étonné du levier que c'est pour permettre à des jeunes, par ce qu'ils représentent, de précocité, de motivation dans le secteur aéronautique. Et puis, nous apprenons aux jeunes à piloter. On a actuellement une trentaine de jeunes qui préparent un brevet de pilotage, qui va leur permettre après de poursuivre sur des formations professionnelles. Aujourd'hui, on en a un qui vient de finir sa formation chez nous, alors qui n'est pas une formation professionnelle. Il peut amener des passagers, sa famille, des amis, mais c'est pas une licence avec laquelle il peut transporter des passagers. Donc après, il y en a qui prennent la voie de la professionnalisation. Alors là, on en a une pelletée en club. Moi, depuis que je suis au secrétaire général, depuis une douzaine d'années, on en voit partir énormément qui aujourd'hui sont commandants de bord sur des compagnies prestigieuses et qui commencent souvent par des low cost, un peu de vache enragée pour commencer. Mais quand on est commandant de bord après, et qu'on est, comme certains chez nous, ont une valence d'instructeur, parce que souvent pour monter les heures, quand les jeunes ils arrivent, ils ont leur brevet, il faut qu'ils montent les heures pour avoir un certain nombre de volants pour partir en compagnie quand ils ont leur brevet professionnel, et souvent ils font de l'instruction chez nous, ils passent leur stage d'instructeur, ils font de l'instruction chez nous, et alors là aujourd'hui c'est une très bonne filière, puisque moi j'en compte de mémoire comme ça une dizaine qui ont fait de l'instruction chez nous. Alors c'est intéressant l'instruction, parce que ça plaît beaucoup aux compagnies. Pourquoi? Parce que une compagnie, quand elle recrute un pilote, c'est pour amener des passagers d'un point A à un point B, mais c'est aussi dans la mission d'un commandant de bord, il a aussi à former
le copilote.
Et quelqu'un qui a un profil de formateur, comme ces jeunes que nous préparons au pilotage puis à l'instruction, ce sont des jeunes qui ont une double facette.
Quel âge ils ont, excuse ?
Ah, les jeunes,
ils ont... On débute à quel âge ?
Alors, nous, on débute chez nous le pilotage à 15 ans. On débutait un poil plus tôt avant, mais aujourd'hui, il y a des règles qui ont changé. La réglementation est européenne. Et un jeune, aujourd'hui, peut avoir un brevet de pilotage non professionnel en un an et demi, à peu près. Un an et demi, souvent deux ans, parce que plus on étale, plus ça lisse les coûts. Alors même si les jeunes sont énormément boursés, on a un petit peu une délégation de service public, c'est-à-dire que l'État, par le biais de conventions, nous demande de former des civils. Pour le pilote, pour le militaire et pour le civil, et en contrepartie de ça, les aéroclubs, enfin les jeunes des aéroclubs touchent des bourses qui paient souvent entre un tiers et 50% du coût du brevet.
Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission chaque lundi 19h à partir de 19h10. Vous pouvez nous suivre sur www.attitudefm.com, sur les fréquences à Angoulême, c'est 98.3, 90.7, et c'est Culture Sport. Donc votre émission, nous accueillons aujourd'hui Joël Canard, pardon, qui va répondre au feu croisé des questions de Dédé et de votre serviteur. Sur le BIA, donc il y a un examen, donc je crois avec 5 thèmes bien définis.
Oui, c'est voilà, mais un pilote, si vous voulez, ça s'appelle BIA, brevet d'initiation aéronautique. Il faut être mécanicien, météorologue, aérodynamicien, enfin électricien, enfin bref, ça couvre un météorologue, je sais pas si je l'ai dit, ça couvre un certain nombre de matières et de connaissances qui font que on voit des jeunes se passionner, ce que je vous disais hors antenne, pour la météo, qui ont monté leur propre en équipe, leur propre station météo et qui diffusent ça sur les réseaux sociaux. Enfin, le BIA aujourd'hui, c'est une formation qui permet de s'ouvrir au monde professionnel de l'aéronautique. Et très franchement, à 10 euros l'année, 40 heures de cours, 3 heures de vol, ah oui. C'est cadeau de chez cadeau.
Ah oui, c'est clair, c'est très abordable.
Pas beaucoup d'adhésion à 10 euros, moi.
Donc, il y a l'aérodynamique, l'aérostatique et les pratiques de vol, l'étude des aéronefs et des engins spatiaux, la navigation, réglementation et sécurité des vols, et enfin, un peu d'histoire et de culture sur l'aéronautique et du spatial. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Et donc, j'y ai, je crois, aussi une épreuve facultative d'anglais ?
Tout à fait, parce qu'effectivement, comme vous le savez, il y a deux langues qui sont parlées en aéronautique, l'anglais... Et puis la langue du pays.
Voilà.
Donc, c'est sûr que, vous voyez, là, par exemple, on a un jeune anglais qui est arrivé à 10 ans chez nous. Bon, il est complètement bilingue. Il a fait de l'instruction chez nous. Il a 25 ans maintenant. Il vient de candidater pour une compagnie en Pologne. Il vient d'y être admis. Le fait qu'il soit instructeur, le fait qu'il soit bilingue, et qu'il ait fait son BIA, qu'il ait fait un brevet non professionnel dans un aéroclub, ça a été une voie royale pour lui, et comme pour d'autres d'ailleurs.
Donc, vous avez un partenariat donc avec des lycées, des collèges, Joël ?
Oui, alors on a aujourd'hui une quinzaine de lycées-collèges qui, c'est une formation intégrée que nous faisons, c'est-à-dire qu'on fait la partie théorique. Alors souvent, des établissements scolaires se débrouillent avec leurs professeurs qui sont en capacité de physique ou de techno de faire un certain nombre d'enseignements théoriques. Bon, c'est sûr que nous, on a l'avantage, vous voyez, quand on parle d'aérodynamique, où on va sur le hangar, on voit un profil d'aile et on explique de façon très concrète pourquoi un avion vole. Et souvent, on est surpris de savoir comment un avion vole et par quelle magie il tient en l'air. Moi, je croyais même à 50 balais quand je suis rentré au club. J'étais persuadé que c'était comme les avions à papier, quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. Et il y a des profils d'ailes qui permettent, voilà.
Au fait, pourquoi un avion tient en l'air ?
Eh bien, un avion tient en l'air parce que il a un profil d'aile qui lui permet de, voilà, le dessus de l'aile est bombé. Mmh. Quand l'air attaque. Ce qu'on appelle le bord d'attaque, l'avant de l'aile, il y a de l'air qui passe par-dessus, qui a un chemin à faire plus important que l'air qui passe par-dessous, et crée une aspiration. C'est pour employer une image, c'est ce que vous voyez dans un ruisseau, quand vous avez une pierre au milieu d'un ruisseau, l'eau autour de la pierre, elle va très vite. Et puis,
ben c'est vrai.
Voilà. Donc c'est un peu cette image-là qu'on donne aux jeunes.
D'accord.
Et c'est ça qui fait l'importance à 75%.
Je vous ai interrompu, donc on parlait du BIA, donc des nombres de collèges et de lycées qui étaient affiliés donc à votre club.
Alors nous avons des conventions avec une quinzaine d'établissements scolaires, mais on fait tout. C'est-à-dire on fait tout parce qu'on a les avions pour faire même de la théorie. On fait plus des travaux pratiques que de la théorie au tableau noir. Et c'est vrai que ça imprime mieux pour les jeunes. Et ça on a limité à entre 25 et 30 élèves chaque année sur deux sessions, une le mercredi, une le samedi. On fait les mêmes cours dans ces deux sessions, et les jeunes, en fonction de leur activité sportive, culturelle, musicale, bon, bref, viennent à la session qui les arrange le plus pour cohabiter avec les autres activités qu'ils ont. Et on a également des conventions avec quelques établissements qui font du théorique au sein de l'établissement, et qui viennent à l'aéroclub pour
faire des travaux pratiques,
pour faire des vols, pour faire de la pratique en vol, et pour également découvrir ce que sont les métiers, par exemple, de contrôleur aérien. On fait monter les jeunes à la tour de contrôle, on va chez Airbus voir l'atelier mécanique, voir le simulateur, voir tout un tas de choses, et ils passent une demi-journée ou plusieurs demi-journées avec vous, mais c'est moins complet que le travail, les travaux pratiques que nous faisons à l'aéroclub.
D'accord. Vous parliez d'Airbus tout à l'heure, donc l'aéroport est susceptible d'accueillir des avions jusqu'à quelle taille à peu près ?
Alors, contrairement à ce que vous pensez peut-être, je sens ça quand vous me posez la question. Quand on dit on est pilote et qu'on veut piloter chez Airbus, on ne pilote pas directement sur un 320 parce que ça coûterait un bras. Donc on commence par des monomoteurs, des bimoteurs, et c'est après, quand on a passé ses brevets professionnels, qu'il y a ce qu'on appelle la qualification de type. Après, on se spécialise sur un Airbus et on commence non pas sur un Airbus, mais on va commencer sur du simulateur, et puis on finira évidemment copilote, et on finira par du vrai vol.
Qu'est-ce qui délivre les brevets, ou il y a des juges, il y a des comment vous faites?
Alors les brevets que nous délivrons, qui encore une fois ne sont pas des brevets professionnels, mais permettent de voler dans le monde entier, c'est la DGAC qui a c'est une réglementation européenne depuis quelques années. Ça a été uniformisé, alors on comprend bien pourquoi, parce que s'il y a des règles différentes en Angleterre, et puis ça peut devenir vite. Donc là aujourd'hui tout ça c'est uniformisé, et les diplômes sont uniformisés, les programmes sont les mêmes. Vous faites en Pologne, dans l'Europe tout entière, que vous fassiez en Pologne, en Italie, en France, c'est le même programme, c'est le même examen. Voilà. Donc nous on a aujourd'hui un volant d'une trentaine de jeunes chaque année qui passe un diplôme non professionnel, et puis il y en a toujours deux, trois qui embranchent sur des formations qui vont déboucher. Alors souvent ils font, pour prendre une sécurité, ils font un plan B, ingénieur aéronautique, qui permet, ou une classe préparatoire qui permet d'avoir un certain niveau quand ils passent les tests pour aller chez Airbus ou dans une compagnie nationale ou de renom, ça les met quand même en pôle. Nous on en a comme ça qui ont passé. Là par exemple, on a un jeune qui a fait toute sa formation chez nous, qui a 25 ans, il a fait le BIA chez nous, il a fait son PPL, donc non professionnel chez nous, il a fait ingénieur aéronautique. Et là, il a passé ses examens. Mais
le diplôme, il est délivré par qui, c'est ça?
Le diplôme. On a un programme à réaliser. Nous sommes une école de.
Il y a bien des juges à la fin pour corriger s'il est habilité ou pas.
Bien sûr. Alors,
c'est ma question.
Alors, sur les brevets, les nôtres, les non-professionnels, nous avons une épreuve théorique à passer. Qui recouvre tout ce dont on parlait, la météo, la réglementation aérienne, enfin, tout ça est très compliqué, et c'est un gros morceau. Et ça, c'est un diplôme qui se passe donc un examen, un QCM, qui recouvre des questions sur tous ces chapitres-là, et il faut 75% de bonnes réponses au QCM pour avoir son théorique. Quand on a le théorique et qu'on a fait le programme des vols, nous avons une école ATO, Approved Training Organization, c'est-à-dire que nous faisons approuver notre programme de formation par la DGAC, avec le nombre d'heures requis, comment c'est organisé, et ensuite quand le jeune... Alors il y a des jeunes qui vont très vite, qui sont lâchés, qui peuvent voler tout seuls à 12 heures. D'autres, il leur faut 25 heures. Bon, ça va plus ou moins vite. Alors un jeune va souvent assez vite. Quand vous avez quelqu'un qui fait ça pour la retraite, pour occuper sa retraite, c'est un petit peu plus long. Mais quand on a fait sa préparation telle qu'elle est décrite dans notre manuel de formation, on présente le jeune à des examinateurs qui sont délégués par la DGAC, qui viennent faire passer le test en vol. Donc il y a un test pratique qui se passe sur ordinateur en QCM, quand on est reçu à ce test théorique, on passe son test pratique avec un FE, Fly Examinateur, donc qui est nommé par la DGAC.
D'accord, et c'est lui qui délivre ou délivre pas. C'est comme un permis de conduire, quoi.
On va dire ça comme ça. Oui. Sauf que, si vous voulez, la partie théorique, le Rousseau du code de la route, si vous voulez, un peu moins épais que le brevet théorique. Le théorique de l'avion, quoi.
Bien sûr.
Je vous ai dit qu'on est assez fiers de ce que nous faisions sur le BIA. et toute cette activité éducative et de lien social que nous menons à l'aéroclub, on en est assez fiers, parce qu'on reçoit à notre atelier on reçoit des stagiaires qui sont dans des cursus de formation de mécanique ou de diplôme pour être
contrôleur du ciel, contrôleur aérien.
Alors nous avons des jeunes qui sont partis au contrôle aérien, mais après ce sont des préparations un peu spéciales, c'est souvent des classes préparatoires, et nous, si vous voulez, on sert un petit peu à ces jeunes là en fonction de leur motivation, de leur appétence. On sert à ces jeunes là on a un peu un service, on l'appelle pas comme ça, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais on a un service d'orientation des jeunes.
Oui, c'est ça.
Et qu'on nourrit en interne, vous voyez, ce jeune qui vient d'être reçu au cadet d'Air France. Cadet d'Air France, vous êtes reçu au cadet d'Air France, il a fait tout son parcours chez nous. Je peux vous dire que c'est des parcours, il a 25 ans, il a fait une classe préparatoire, il est ingénieur aéronautique. Nous, on organise avec ces jeunes-là, un autre qui est parti à la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, un autre qui est parti en Lettonie, à Riga, pour être pilote professionnel, avec une formation qui est payée par la compagnie nationale à Riga. On fait des réunions avec ces jeunes-là qui viennent répondre aux questions des jeunes, et dans un projet que les jeunes maîtrisent. Il n'y a pas que pilote, si vous voulez. Quand vous demandez à un jeune, des métiers de l'aéronautique, pilote. Les plus hardis vous disent mécanicien aéronautique. Mais les métiers qu'il y a en aéronautique, c'est prodigieux.
Oui, ils peuvent prendre une branche mécanique, pilote, etc. C'est ça qui est bien chez vous.
Nous, on a vu des jeunes femmes, si vous voulez, qui étaient caissières chez Auchan, qui sont maintenant, qui sont sur des métiers en électronique, de précision. Mais si on ne les connaît pas, ces métiers, on ne peut pas postuler.
C'est clair.
Voilà, donc, quand on me parlait d'un chaudronnier, si vous voulez, je voyais le gars avec sa combinaison pleine de camouille. Aujourd'hui, chaudronnier, c'est blouse blanche et c'est d'autres métiers, quoi.
Bien sûr.
Voilà, et puis, l'aéronautique, n'oublions pas que on est le deuxième pays aéronautique du monde, et d'ailleurs, derrière les États-Unis, on est le deuxième pays en nombre de pilotes. On est le premier pays européen en nombre de pilotes, et ça a débouché, si vous voulez, les aéroclubs ont permis de déboucher, qui ont lancé l'aéronautique en France, les 600 aéroclubs actuels ont permis de lancer l'aéronautique en France, et quand on connaît Airbus, quand on connaît Dassault, tout ça, on est fiers d'y avoir quelque part.
D'avoir apporté votre pierre à l'édifice, oui.
Et quand vous voyez la vitesse à laquelle, discutez de ça avec un parent l'autre soir, la vitesse à laquelle ça avance. Le premier gars qui a volé et qui a fait 20 mètres en décollant avec un avion à vapeur, c'est il y a une centaine d'années. Quand on voit aujourd'hui, c'est qu'un Rafale, par exemple, on se dit, mais quel progrès a été fait? Quelle intelligence il y a eu dans l'aéronautique? Et nous, on n'est pas étonnés de voir aujourd'hui, ce qui se passe en aéronautique, parce que les jeunes, quand ils sont motivés dans ce secteur, je peux vous dire que ça bosse.
Oui, c'est sûr.
Voilà.
Vous êtes combien d'instructeurs au club?
Alors, les instructeurs, on a actuellement 7 instructeurs au club.
D'accord.
Ce sont tous des bénévoles. Dans les aéroclubs français, 90% des instructeurs sont bénévoles, et nous, on tient pour faire des activités avec ce caractère social dont je parlais tout à l'heure, nous tenons à ce que un secrétaire général, un trésorier, moi je suis à la retraite, je fais 50 heures par semaine pour le club. Les instructeurs font beaucoup, parce que quand un instructeur fait 150 heures d'instruction, il y a la prépa, il faut être là avant, il faut le briefing, le débriefing, mais tous nos gars chez nous sont bénévoles. Ce qui nous permet aujourd'hui de tirer le coût des heures de vol à des choses qui sont très abordables pour monsieur tout le monde. Et on prend beaucoup de plaisir à recevoir, grâce au système de bourse également, qui ne fait pas de distinction entre nos gens, de donner un accès. Aujourd'hui, Notre premier brevet de pilote, il coûte pas plus cher que le permis de conduire.
Mais vous êtes subventionné par qui ? Par le département, la région ?
Alors, nous avons une fédération. Moi, j'étais dans une autre fédération avant, j'en parlais tout à l'heure. J'étais dans une autre fédération, et là, je suis dans une fédération qui m'étonne parce que tous les moyens qu'elle reçoit, elle les met à disposition de la base, des clubs et des adhérents.
Ça, c'est bien.
Donc, c'est quelque chose, moi, dans le monde sportif classique que je connais bien, par ailleurs, que je ne retrouvais pas. Aujourd'hui, les jeunes sont toujours surpris de voir un BIA à 10 euros.
Mais oui, c'est 4 pour heures, ça.
4 heures. Celui qui a le BIA,
moi, combien, hein.
celui qui a le BIA, par exemple, on lui fait faire un vol de récompense. Il fait le tour de la grande région, les îles, Fort Boyard, et il passe en place avant pendant 45 minutes. Et il est commandant de bord. Mmh. Il est copilote et il donne les points de report sur lesquels on va passer, le cap qu'il faut prendre. C'est des jeunes qui savent faire ça déjà après le BIA. Mmh. Et ils vont faire 2 heures de vol, 40 minutes chacun, où ils sont. Bon, quand un jeune a fait ça, je peux vous dire que c'est pas difficile de le voir pousser la porte du club. Hein.
De Champigny à Fort Boyard, il y a combien de. Au niveau du temps ? C'est impressionnant, quoi.
35 minutes, 35 minutes, oui, à peu près.
Oui, l'avion, il vole à 200 km/h.
On est en croisière à 180 km/h sur certains avions un peu plus, sur les 4 places notamment. Mais bon, 200 km/h.
Oui. Je suppose qu'il y a parfois des conditions météo un peu difficiles qui fait que les avions ne peuvent pas décoller.
Alors là, on a eu un hiver tragique, là, ouais. On n'a pas pu voler parce que nous, on est obligé d'avoir un plafond. On aime bien quand on lit la météo aéronautique voir la notion CAVOC. CAVOC, ça veut dire Sailing and Visibility, OK. Ça veut dire okay. Les nuages sont à plus de 5000 pieds, 1500 mètres à peu près. Visibilité supérieure à 10 km. Donc là, on est tranquille et on aime bien voir. Quand on a dans les bulletins météo ce label, on est content.
Je m'excuse. C'est-à-dire que le pilote, il faut qu'il voie 10 km.
Alors, jusqu'à.
Enfin, 9 ou 10 km.
Jusqu'à. En dessous de 5 km, on ne partira pas.
D'accord.
De visibilité. Ça s'apprécie. Et après, nous, on est en VFR de jour. Alors, on fait du vol de nuit aussi. On ne peut pas être pour des questions de sécurité. Il n'y a aucun pilote qui décollera du terrain sans 1500 pieds de. Alors, c'est-à-dire 500 mètres au-dessus du sol, quoi. La première chose que fait un pilote, il prend la météo.
Mais oui.
Il prend un peu ce qu'on appelle les notables, c'est-à-dire sur chaque terrain, il y a quelques indications. Attention, il y a une grue qui est en travaux à l'entrée du terrain. Enfin, toutes les informations qui concernent le terrain. Si vous avez besoin de refouler, la pompe de carburant est opérationnelle. Voilà. Et donc, il y a, quand on prépare son vol, quand on prépare sa sortie, on a tout un tas de. Alors, la météo, bien sûr, les notams, et puis la carte, on trace des traits sur la carte, et puis par quel point je vais passer.
Il y a des couloirs qui vous sont affectés ?
Il y a des couloirs qui sont affectés à d'autres types. Alors, oui, bien sûr. Il y a des endroits où on ne peut pas passer.
Les terrains militaires, je suppose.
Qui sont réservés. Mais il y a des couloirs qui sont notamment les couloirs à basse hauteur, par exemple, qui sont réservés aux avions pour évoluer à basse hauteur. Donc vous pouvez passer en dessous, si on peut passer en dessous, ou vous pouvez passer en dessus.
Voilà.
À Cognac, vous avez une zone militaire, vous pouvez passer en dessous, c'est-à-dire sous 1500 pieds, ou vous pouvez passer au-dessus. Vous pouvez passer à l'intérieur, parce que c'est souvent à cette altitude qu'on vole, mais vous demandez l'autorisation.
À la
tour de contrôle de Cognac.
D'accord. Oui, parce que de toute façon, l'avion est contrôlé, hein, que ce soit à Cognac, à Saintes.
Ah ben, nous avons dans tous les avions, nous avons des transpondeurs avec un numéro. On est repéré. Je peux vous dire, si vous passez dans une zone interdite, ça va vite. Hein, la DGAC vous appelle. Est-ce que vous avez bien un avion immatriculé comme ça
Vous êtes sanctionné là ? Non.
Ah, ça, il y a des commissions, oui, ça, on peut être sanctionné.
D'accord. Non, non, mais c'est bien de savoir.
Ah, non, c'est très, très, très contrôlé et on peut pas, heureusement d'ailleurs. Hein,
oui, mais non, c'est vrai.
C'est un peu rassurant, quoi. Hein.
Ouais, oui, ça.
J'entendais hier, par exemple, à Orly, les contrôleurs aériens, ou Roissy, ils avaient 120 contrôles à la minute.
Putain.
Ou à l'heure, pardon, non, pas à la minute, ça serait impossible. Donc c'était deux ou trois avions dans la minute. Mmh. On lui dit, alors c'est pour ça que il y a pas beaucoup de discours hein, dans les discussions. Ce sont des messages qui sont très
synthétiques qu'on apprend également dans l'école de conduite.
Mais nous, on communique avec les avions de ligne avec le même langage et
oui, bien sûr.
Voilà. Alors on communique pas directement avec les avions de ligne, on passe par les tours de contrôle,
oui, bien sûr.
Mais ce sont des messages. Station appelée, station appelante, donc Angoulême Info, parce que j'appelle Angoulême, Fox Papa X-ray Victor Mike, c'est mon immatriculation.
D'accord.
On donne sa position, suis vertical Bergerac.
De toute façon, vous êtes enregistré partout dans le monde. Avec votre
les zones si vous voulez elles ont une mais on peut suivre un avion qui va aux États-Unis il y a des logiciels
voilà c'est ça ma question
qui suivent tout ça oui
mais pas comme l'avion qui s'est perdu là avec 175 ou 275 personnes dans l'avion là.
Alors je vais vous dire vous m'avez l'air très très curieux, moi je ne peux que vous encourager à pousser la porte de l'aéroclub.
C'est gentil.
On vous fera une petite amphicabine au sol dans l'avion, on vous expliquera comment un avion vole. Vous verrez les ailes avec bombées sur le dessus, plates sur le dessous, l'importance. On vous expliquera tout ça. Et puis on vous expliquera comment on peut s'inscrire à un aéroclub si ça gratouille un peu quoi. Et nous on reçoit énormément de gens et on prend beaucoup de plaisir. On est des passionnés quoi. On prend beaucoup de plaisir. Moi y a rien de plus qui m'exaspère de voir des jeunes qui sont pendus aux grilles d'un aéroclub qui regardent les avions.
Alors qu'il suffit de pousser la porte.
On les fait rentrer. Alors après, il faut être avec parce que le terrain est une zone
protégée,
oui, et puis très contrôlée. Donc on a obligation de mettre des gilets jaunes, enfin, et puis ne peuvent rentrer que des gens qui sont accrédités. Mais bon, moi je suis accrédité et les pilotes aussi, donc on fait rentrer des jeunes qui pendent aux grilles et puis on les met dans un avion au sol. On les revoit souvent revenir, ceux-là.
Joël, on va arriver au terme de cet entretien, donc on a largement débordé, mais ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un message ou il y a des thèmes que vous auriez souhaité aborder avant qu'on se sépare?
C'est les questions qu'on se pose autour du réchauffement climatique. Alors bon, nos avions, vous polluez avec vos avions. Nous, un avion, on a des avions de place, on a des avions de place qui consomment 7 litres à l'heure, quoi. Hein. Donc, 7 litres, je dis une bêtise, c'est 14 litres à l'heure, mais comme on fait 200 km à l'heure, ça fait du 7 litres. Voilà. Alors, c'est pas, quand on parle en voiture, c'est des litres au 100, et bon.
C'est ça.
Donc, on a des moteurs qui sont très peu gourmands, et là, j'étais hier en réunion du comité régional aéronautique, qui est le deuxième comité aéronautique de France, qui va très certainement proposer aux aéroclubs de mutualiser des avions électriques pour faire au moins les tours de piste. On règle à la fois les nuisances pour
sonore
et on règle une partie
de l'empreinte carbone.
Mm-hmm. Voilà. Et très franchement, les motorisations électriques en aviation, à mon avis, elles vont aller plus vite que les motorisations.
Parce
qu'on voit bien les freins qui sont mis maintenant, d'ailleurs, sur l'empreinte de carbone, avec tout le matériel qu'il faut pour rendre une voiture électrique opérationnelle. Et donc, je ne suis pas sûr que l'aviation, je suis même sûr du contraire, que l'aviation va être pionnière en la matière, et bien avant d'autres.
Parce que vous faites des expériences là, à ce moment alors.
Ah ben c'est pas des expériences, on aura des avions électriques à disposition.
Non mais là actuellement vous faites des expériences.
Ah ben des avions électriques sont opérationnels. Là vous avez aujourd'hui, à Royan.
Ah, je savais pas.
À Royan ils ont un avion électrique. Alors autonomie 50 minutes, mais pour faire des tours de piste.
C'est largement suffisant.
Pour faire 35 minutes de tours de piste, ce qui est le tarif syndical, c'est largement suffisant. Et puis les batteries, ben, c'est comme les voitures, on commençait.
Oui, bien sûr. Faut les charger.
Ça va, ça va. Et puis Airbus, moi j'étais dans une réunion avec Airbus, là, des usagers de la plateforme. Airbus nous parle de l'avion à hydrogène dans les années 30, quoi. Enfin, 2030, quoi.
D'accord.
Donc, je ne savais pas du tout qu'il y avait encore. Plus. On apprend quelque chose.
Hein. C'est pour ça qu'on entend sur l'avion beaucoup de bêtises.
Exactement.
Ça fout la trouille quand on dit d'ici 10 ans ou 15 ans. Ça va être multiplié par le transport aérien, va être multiplié par 5. J'ai entendu un chiffre qui m'a même moi-même étonné. Mais ça veut dire que ça ne sera pas les mêmes avions aussi.
Voilà. Oui, bien sûr.
Voilà.
Joël, on vous remercie d'avoir accepté si gentiment notre invitation. On a l'habitude de se voir à minima une fois par an, donc au Forum Sport Santé Environnement. Je vous donne rendez-vous donc en septembre.
Mais je viens de remplir hier, j'ai rempli ma fiche d'inscription pour le forum. Donc
parfait.
C'est bien.
Donc vous êtes parfaitement raccord. Voilà, Joël. On vous remercie encore. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à bientôt et on reste en contact au moment du Forum Sport Santé Environnement. Merci encore.
Très bien, je vous remercie.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va revenir sur les résultats des clubs charentais ce week-end. Un week-end très chargé avec notamment tout le football qui s'est joué en National 2. La CFC se déplaçait du côté de Bourges au stade Jacques Rimbaud. Un match nul 0-0 pour les hommes de David Higuel qui reste à la 8ème place du classement. Les autres résultats de cette poule B de National 2 avec le match nul entre La Roche-Vendée et Libourne un partout, Romorantin, Les Herbiers de partout, Angers est battu à domicile par Blois 2-1, Trélissac est battu par Saumur 2-0 et le Paris 13 Atletico et Bergerac font 0-0 au classement. Libourne est toujours en tête à égalité avec La Roche-sur-Yon. La CFC est 8ème et recevra la lanterne rouge le week-end prochain, la réserve d'Angers, samedi à 18h au Stade Lebon. En Régional 1, carton de la CFC, de la réserve de la CFC, victoire 6-0. Du côté de Senon, les buts sont inscrits par Noah Marchesso, un doublé de Lucas Macan, un but de Louis Vergniaud, un but contre son camp de Senon, permettre aux hommes de Mathieu Kouidla de l'emporter 6-0. Vraiment une belle victoire pour les Angoumoisins qui se replace sur le podium grâce à ce succès. En Régional 2, les résultats des clubs charentais, Roumazières et Guéret font 2 partout. Saint-Arix gagne du côté de Royan 2-1. Sireuil gagne à Niort-Saint-Florent 1-0. Le Roi s'incline à Libourne 2-0. Échiré, malheureusement, bat Merpin 4-0. Enfin, en poule D, l'Alliance 3B bat Mascaré 4-0 avec notamment un doublé de Mohamed Swalia. En Régional 3, défaite de Confolan contre Château-Larcher 1-0, défaite de Ruffec 2-1 à Fontaine-le-Comte, défaite de Basso 4-3 à Saint-Jean-d'Angély, victoire de Jarnac 4-0 contre Niort-Saint-Florent, victoire de Cognac 3-1 à Matha, victoire de Saint-Savin-Saint-Germain 9-0 contre Soyaux, victoire de Champigny 1-0 contre Ille. Victoire de Pimoyen 3-1 contre Limoges-Bobreuil, match nul entre la Trois-Vallées et La Roche-Rivière 3 partout. Et enfin malheureusement défaite de Vindel à Coulommiers-Chamiers, défaite 3-0 des Vindelois en Dordogne. En D1, les scores de cette journée avec la victoire de Moutiers 5-1 contre Ruel. Le match nul entre Saint-Michel et Lessac 0-0, Merpin Saint-Kineg à domicile contre Linard 11-1. L'Alliance 3B bat les Portugais du Gon 3-0. Cognac, Sireuil 2 partout. Le Roi bat la Couronne 4-0. Enfin en D2, pardon, poule A, victoire de Mornac 2-0 contre Ruffec. Victoire de Montbron 5-1 contre Brigueuil. Victoire de Chasseneuil à Aigre 2-1. Victoire de Champigny du côté de Fléac 4-2. Match nul entre La Roche-Rivière et Roulé 2 partout. Et enfin, victoire de Charente-Limousine 2-0 du côté de Ruelle en poule B. Victoire de Verdi, 4-1 contre Gernac. Victoire de Saint-Séverin 3-1 contre Puymoyen. Victoire de Saint-Alex contre Nersec 2-0. Victoire de Grande-Champagne à Bel-Air 6-0. Victoire de Clèche à Saint-Brice 2-1. Et enfin, victoire de Montmoreau à Sultiran 3-0. En rugby, le SA15 a été tenu en échec par l'ancien leader Vannes. Match nul 22 partout pour les joueurs du SA15 qui se rencontrent à Agen la semaine prochaine. En National 2, l'US Cognac s'impose largement contre Langon. Victoire 64-17. Le maintien sportif se rapproche en National 2. En Fédéral 1, malheureusement, l'UBJ s'incline. L'UBJ s'incline 26-29 samedi soir contre Nantes. Nantes qui était la saison dernière en National 1, donc des courtes défaites des Barbusiliens. En rugby toujours, il y avait les finales de territoire ce week-end à Ruffec. Deux équipes charentaises étaient représentées. C'était la réserve de la Couronne et l'équipe première de la Couronne. La réserve s'est imposée contre Saint-Jean-d'Angély. Malheureusement, l'équipe première s'est inclinée contre Saint-Jean-d'Angély également. Défaite 26-14 pour les Couronnais qui menaient pourtant 10 minutes de la fin. En handball, pas de match, mais une information mercato, puisque Dimitri Goudouche quittera les Techs à la fin de la saison. L'entraîneur qui est arrivé en début de saison pour pallier le départ, malheureusement, ne continuera pas sur le banc de les Techs. En National 3 masculine, Cognac s'enfonce à Clisson. Défaite des Cognacés 78-73, pour qui le maintien sportif paraît malheureusement très très compliqué. Enfin, deux résultats en cyclisme. Aber s'impose à Saint-Projet avec une équipe de l'Atria Montluçon qui a fait carton plein en Charente. Et enfin, les foulées en Goumoisine avec 5000 participants. Victoire sur le 10 km du Belge, pensionnaire du Stade Bordelais, Clément de Flandre. Et victoire chez les féminines de Marine Etienne qui remporte donc les foulées en Goumoisine. Donc les 10 km alors que le 5 km qui avait vu une belle affluence a été remporté par un inscrit des dernières minutes avec notamment Enzo Goyon, l'athlète du G2A qui termine deuxième de cette course. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.